Bonjour et bienvenue, 14h TU, 15h ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, le roi Philippe et le Premier ministre espagnol en déplacement actuellement dans la région sinistrée de Valence. Ils ont été conspués par une foule en colère. De nouvelles fortes pluies sont prévues dans le sud-est de l'Espagne, dévastées par des inondations meurtrières. Nouvelle journée de vote en Moldavie. Deux semaines après le référendum sur l'Europe, c'est aujourd'hui le second tour de la présidentielle. Maria Sandu, la présidente sortante, affronte un candidat soutenu par les socialistes pro-russes. Dans la course à la Maison-Blanche, c'est le sprint final avec toujours les fameux états pivots convoités par les deux candidats, Michigan, Pennsylvanie ou bien encore Caroline du Nord et Géorgie. Du tennis aussi dans ce journal. En finale du tournoi de Paris-Bercy, le français Humbert défie cet après-midi l'allemand Zverev. Comme pour ajouter du drame au drame, de nouvelles pluies intenses sont donc annoncées dans le sud-est de l'Espagne, région qui reçoit ce dimanche les plus hautes autorités du royaume. Le roi Philippe et la reine Laetitia sont arrivés à la mi-journée à Peñaporta, près de Valence, l'une des communes les plus endeuillées par les tragiques inondations du début de semaine. Avec eux, le Premier ministre Pedro Sanchez. Ils ont été accueillis par une foule en colère. Correspondance à Madrid de François Musso.
Chiva, Peñaporta, Catarroja, Torrent, Picanha, autant de communes de la banlieue de Valence les plus touchées par la terrible goutte froide, couverte de boue et qui pleure ses morts. C'est précisément ces lieux que le couple royal, le roi Philippe VI et la reine Laetitia, a choisi pour apporter son soutien symbolique, montrer que le chef d'État se préoccupe de ces Espagnols qui souffrent. Accompagnés du chef du gouvernement Pedro Sanchez, ils ont rencontré les maires de toutes ces petites villes sinistrées. Ils se sont aussi approchés des gens affectés et là, la tension est montée à plusieurs reprises. La colère des riverains était même souvent au rendez-vous. Hors de là, vous saviez très bien ce qui allait arriver. Assassin, a-t-on pu entendre. À Chiva, il y a même eu un moment très critique où les policiers ont dû évacuer Philippe VI et Laetitia devant les menaces de certains habitants. Le roi n'a pas eu peur, il s'est approché d'eux, leur a parlé, cela s'est calmé. Mais devant l'énormité du drame, il est à prévoir que des manifestations de colère continueront de se produire à l'avenir. François Musso, Madrid RFI.
Et pendant cette visite du roi, les recherches se poursuivent en Espagne pour retrouver les disparus, dégager les routes et remettre en état les infrastructures. Le dernier bilan officiel en vies humaines est de 217 morts. À deux jours du vote aux États-Unis, c'est la dernière ligne droite pour les deux prétendants à la Maison-Blanche. Donald Trump se rend ce dimanche dans trois états pivots, les swing states, Pennsylvanie, Géorgie et Caroline du Nord. Kamala Harris, elle, retourne dans le Michigan pour son ultime dimanche de campagne. Elle était hier à Atlanta, en Géorgie, où Edouard Maille a rencontré des militants démocrates, pas tous convaincus par une victoire de leur favorite. Son reportage.
Des rappeurs ambiancent la foule sous un soleil brûlant, puis Kamala Harris prend la parole, répète son programme pour aider les classes moyennes et réussir à réconcilier le pays. Michael Terk, 70 ans, est confiant d'une victoire ici en Géorgie, mais il s'inquiète des conséquences.
Ah oui, j'ai peur que si les républicains perdent, ils contestent les élections. Et peut-être qu'ils inciteront certains fans, leurs électeurs, à avoir recours à la violence.
Serge Do, un électeur ivoirien et américain, reste optimiste d'une victoire, et c'est tant mieux, explique-t-il.
On aimerait bien qu'elle gagne quand on voit un peu ce qui se passe en face, avec tout ce que dit Donald Trump, qui fait peur, qui vampirise un peu l'écosystème politique américain et le monde entier.
Il est venu avec sa fille, Soraya, 11 ans, qui est elle plus inquiète d'une victoire de Donald Trump.
He's gonna destroy the country.
Il va détruire le pays, tellement que je ne vais peut-être pas pouvoir continuer à vivre ici. Ça fait assez peur, car j'aime les États-Unis, c'est chez moi.
Sur scène, Kamala Harris a insisté sur l'importance d'aller voter. Ce vendredi, la moitié des électeurs de Géorgie avaient déjà déposé leur bulletin par vote anticipé. Edouard Maille, Atlanta, RFI.
Quant au sondage, l'un des tout derniers, publié hier soir, n'est pas passé inaperçu. Ce sondage donne en effet 3 points d'avance à Kamala Harris dans le petit état de l'Iowa, qui est un fief républicain.
RFI.
Les électeurs de Moldavie, petit état d'Europe de l'Est frontalier de l'Ukraine, sont de retour ce dimanche dans les bureaux de vote, 2 semaines après la victoire sur le fil du oui au référendum sur l'Union européenne. Face à face au second tour de la présidentielle, la sortante Maia Sandu, pro-européenne, est arrivée largement en tête au premier tour, et Alexandre Stoyanoglou, ancien procureur soutenu par les socialistes pro-russes. Les experts prédisent tous un score serré à Chisinau, la capitale moldave. Reportage dans dans plusieurs bureaux de vote de notre envoyé spécial Julien Chavanne.
Yulia est venue voter à la première heure. Le jour est important pour cette mère de famille.
Nous voulons un pays prospère, nous voulons la paix, la tranquillité. Nous avons voté pour l'avenir de nos enfants, pour avoir une vie meilleure et sûre. Nous votons pour nos enfants afin qu'ils aient la meilleure vie possible.
Elle vient de cocher la case Maya Sandou sur son bulletin de vote. La présidente sortante a multiplié les appels contre les fraudes. Constantin Josanne est le président de ce bureau de vote où les deux candidats sont arrivés au coude à coude au premier tour.
Nous avons des observateurs nationaux et internationaux, des représentants des candidats aux élections et bien sûr, nous sommes les membres de la section électorale chargés de rendre le processus de vote transparent et équitable. Nous avons assuré une sécurité maximale au premier tour et bien entendu, nous ferons de même au second.
Des caméras sont installées au-dessus des urnes et dans la rue, la police patrouille avec un message diffusé par haut-parleur. Ne vous faites pas payer pour voter, c'est illégal. On connaîtra les résultats dans la soirée, mais personne d'ici là ne se risque au moindre pronostic. Julien Chavanne, Kissinao, RFI.
En Moldavie, les bureaux de vote restent ouverts ce soir jusqu'à 21h-19h, temps universel. Au Proche-Orient, le Hamas et le Hezbollah toujours dans le viseur d'Israël. Ce matin, de sources médicales palestiniennes, les forces israéliennes ont intensifié leurs frappes sur le nord de la bande de Gaza, faisant au moins 23 morts. Au Liban, les autorités font état de 3 victimes dans une frappe israélienne près de Saïda. Les rebelles houthis du Yémen sont en train de devenir une puissante organisation militaire. C'est un rapport d'experts mandaté par le Conseil de sécurité de l'ONU qui l'affirme. Soutenu par l'Iran, les houthis s'inscrivent dans l'axe de la résistance, de même que le Hamas palestinien, le Hezbollah libanais et d'autres formations alliées de Téhéran, Nicolas Falaise.
La rébellion houthi du Yémen disposerait d'environ 350 000 combattants, soit 10 fois plus qu'il y a 10 ans. Le rapport remis cette semaine au Conseil de sécurité de l'ONU mentionne une vaste campagne de recrutement ainsi qu'un soutien sans précédent apporté aux Houthis par leurs alliés. Soutien de l'Iran par l'intermédiaire de la force Al-Quds, des gardiens de la Révolution, qui selon le rapport transfère matériel et assistance aux groupes rebelles yéménites. Soutien également du Hezbollah libanais, notamment pour la formation idéologique, l'assemblage des systèmes d'armement ou encore le financement. Le document des experts de l'ONU confirme donc la coopération entre ces acteurs régionaux. Les Houthis en ont bénéficié ces dernières années, consolidant leur emprise sur de vastes territoires au Yémen, malgré la campagne militaire lancée par l'Arabie Saoudite et ses alliés. Depuis un an, les Houthis du Yémen lancent drones et missiles en direction du territoire israélien et s'attaquent aussi à des navires en mer Rouge, au nom du soutien à la cause palestinienne.
Nicolas Falaise, RFI, l'évoquait déjà hier. La pollution atmosphérique culmine actuellement à Lahore, la deuxième ville du Pakistan. Ces autorités ont décidé aujourd'hui de fermer les écoles durant une semaine. Enfin, tennis, la finale du tournoi de Paris-Bercy. Le dernier match dans cette salle avant le déménagement l'an prochain du tournoi dans l'Ouest parisien. Il faudra s'y faire, n'est-ce pas, Eric Mamrut? Bonjour.
Oui, bonjour Gilles, bonjour tout le monde.
Alors, en attendant, belle affiche cet après-midi, Eric, avec Hugo Humbert, le Français en quête d'exploit face au numéro 3 mondial Alexander Zverev.
Oui, il pourrait rentrer dans l'histoire du tennis français, Hugo Humbert, puisque cela faisait déjà 13 ans qu'un tricolore ne s'était plus hissé en finale de ce tournoi parisien. C'était Joe Wilfried Tsonga, battu en 2011 par Roger Federer. Tsonga tout de même dernier vainqueur tricolore de Bercy, 3 ans plus tôt, en 2008. Il était alors le troisième français à inscrire son nom palmarès de ce tournoi, après Sébastien Grosjean en 2001 et Guy Forget en 1991. Hugo Humbert, qui n'est que le 8e joueur français à atteindre la finale d'un tournoi de cette catégorie, les Masters 1000, c'est la deuxième plus importante derrière les grands chelems. Il aimerait évidemment s'imposer devant son public ici pour son tournoi préféré. Il venait ici quand il était enfant et il devra pour cela terrasser un homme très en forme, Alexander Zverev, le finaliste du dernier Roland Garros, l'Allemand très convaincant et qui a laissé beaucoup moins de plumes qu'Hugo Humbert sur son parcours, un parcours certes flamboyant pour le français avec des succès sur Alcaraz et Kafelnikov notamment, mais peut-être un peu éprouvant. Ce sera l'une des clés du match, le physique d'Hugo Humbert. S'il est au point, eh bien, il est capable de tout, le français, surtout avec le soutien du public de Bercy qui va évidemment le pousser comme jamais.
Merci. Eric Mamrut.